Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative, disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur le site de radiocampusamiens.fr. Je suis Sonia et je vais animer l'émission d'aujourd'hui. Dans le studio, je suis avec Colline. Salut Colline.
Salut Sonia.
Pour cette première partie d'émission, tu es avec ton invité du ciné Saint-Leu. Et en seconde partie d'émission, je vais vous faire une chronique sur les animaux de compagnie. Côté musique, j'ai choisi Shadow de Amy Blue et Colline a choisi Nothing's Gonna Stop Us de Starship. Mais avant, on commence avec ton interview.
Merci Sonia. Alors oui, je reçois William Tessier aujourd'hui. Bonjour.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va et toi ? Fraîchement, mais ça va.
Ça va, oui. Cette neige nous fait du bien, j'ai envie de dire, hein, même si on ne peut pas sortir et qu'on bloque les voitures. Là, tu viens nous parler donc du programme du Ciné Saint-Leu du 7 janvier au 27 janvier.
C'est ça.
Il y a plein de choses, il y a quand même 40 films pour 3 semaines. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu des films qui sont proposés mais qui ne font pas partie d'une rétrospection de Télérama, le festival Télérama ?
Oui, alors surtout la grosse sortie entre guillemets de ce début d'année, ça va être pour nous l'agent secret qu'on a à partir de demain, du mercredi 7 janvier. C'était un film qui était présenté en compétition à Cannes, qui avait reçu 2 prix, le prix de la mise en scène et le prix du meilleur acteur dans un interprète masculin, pour justement Vague d'Hermoura. C'est un film brésilien qui nous parle en fait du Brésil des années 70-80, très fort politiquement. C'est une grande fresque qui dure 2h39. C'est pour moi très compliqué de vous en parler parce que c'est un film très fort, très fleuve. Vraiment, le terme fresque prend tout son sens devant ce film-là. Et même moi qui ne connaissais pas trop finalement la politique des années 80 au Brésil, c'est très riche et très dense au début, mais le film nous emmène comme ça dans un truc de mi-polar, mi-thriller, mi aussi film politique. C'est assez intense, c'est très 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 bien mis en scène. Et voilà, donc on est très content de pouvoir enfin vous le montrer, puisque le film était sorti en fin d'année dernière. On vous le propose qu'à partir du 7 janvier. Et puis on aura aussi des petites reprises comme ça de l'hiver dernier, qui était Le Maître du Kabuki. Pareil, grande fresque, hein, 2h54. L'histoire vraie d'un des plus grands maîtres japonais de l'art du Kabuki, qui est un art théâtral ancestral là-bas en costume très typique. Si vous voyez jamais des photos ou la bande-annonce du film, tout de suite vous aurez sûrement déjà vu des images de star là. Donc là voilà, 2h54 de grandes fresques dépaysantes.
C'est un peu, ouais.
C'est riche, moi j'ai hâte de le voir. On vous a proposé des séances en week-end justement pour faciliter un peu, parce que si on met ça à 21h30 ça va être compliqué. Mais voilà, c'est en tout cas très beau aussi visuellement à voir. Aussi quelques séances de Dites-lui que je l'aime, pardon, de Roman Boringer. Vous avez été nombreux à nous le réclamer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on vous a entendu, il y a quelques séances à ne pas rater, ce seront les seuls. Et surtout, on aime bien ça, 2 ciné-clubs. Un premier avec les étudiants du lycée Robert Delusache, puisqu'en fait, depuis cette année scolaire, on les accompagne dans ce qui est une spécialité cinéma audiovisuel à l'USARCH. Et donc du coup, on est le cinéma partenaire depuis septembre dernier. Et voilà, ils avaient déjà animé un ciné-club en décembre sur Boulevard du Crépuscule. Et là, c'est les élèves de première qui reviennent avec Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, qu'avait révélé Timothée Chalamet en 2017. Voilà, un film queer qu'ils avaient en tout cas envie de vous remontrer sur grand écran. Ils seront là bien sûr pour en parler avant, après la séance. Et la semaine d'après, cette fois-ci, c'est les étudiants de l'UFR des Arts qui reviennent, eux. Ça fait maintenant des années qu'ils nous proposent des ciné-clubs semestre après semestre. Et là, c'est un film tchécoslovaque. J'ai pas écorché le truc, de Vera Chitlova. Un film féministe d'1h14. Là, pour le coup, c'est l'extrême inverse des films dont je vous ai parlé avant.
C'est pas grave, ça équilibre un petit peu.
Complètement. Et donc voilà, un film féministe des années 60, très, très bizarre. Moi, j'en ai vu des bouts. Parfois, ça rappelle un peu de surréalisme, très expérimental par moments. C'est assez étonnant. Donc en fait, on suit 2 femmes, Marie 1 et Marie 2. Qui s'ennuient fermement et qui vont chercher à mettre le désordre et le scandale dans des lieux publics, bien sûr en questionnant la masculinité et ces forces-là. Donc c'est aussi apparemment très drôle. Et donc du coup, les étudiants seront pareils là pour vous en parler avant et après. Il y aura du temps pour le débat, puisqu'en plus le film est assez court, c'est toujours plus chouette. Donc ça, pardon, Call Me By Your Name le 13 janvier à 19h45 et Les Petites Marguerites le 19 janvier à 20h30. Voilà pour cette première semaine, en plus de la sortie des Échos du Passé, qui était aussi un film présenté à Cannes, cette fois-ci prix du jury. grandes fresques, là, c'est pareil, on vous a prévu que des grandes fresques pour ce début d'année.
Ouais, encore 2h30.
On se dit, il fait froid, vous êtes, on est trop chaud.
C'est vrai.
Donc, Les Échos du passé, qui narrent en fait quatre temporalités différentes, quatre jeunes filles, qui vivent dans la même ferme en Allemagne, mais à des époques différentes, et dont les choses vont se faire écho. Donc, c'est vraiment un film, entre guillemets, à strates. C'est assez étonnant, et pareil, s'il y a un point commun à tous ces films-là, c'est vraiment un esthétique très fort et une découverte en salle à prioriser, parce que c'est des films avant tout très beaux.
Alors, la deuxième semaine du programme, il y a beaucoup aussi de rediffusions de films qu'on a vus 2024-2025. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns, et pourquoi avoir fait ce choix aussi ?
Alors en fait, tous les étés, on a les Immanquables, qui est une période, qui est deux semaines au mois d'août, où on vous propose le meilleur de l'année scolaire passée. Et on se disait qu'en hiver, ça manquait un peu. Il y a Télérama la semaine juste d'après, mais souvent on est frustré avec Télérama, on peut pas vous remontrer tout ce qu'on a envie de vous montrer. Vous êtes aussi nombreuses à nous dire « Ah, j'ai pas eu le temps de voir ci, pas eu le temps de voir ça », parce qu'on a sorti notre fameux top 5 il y a pas longtemps, des films les plus vus. Et souvent, ces tops-là génèrent un peu de frustration chez certaines. Donc voilà, on n'aime pas ça, vous laissez sans avoir pu découvrir les films en salle. Donc en plus de Télérama, à partir du 14 janvier, on a en effet une semaine d'immanquables de l'hiver, avec des choses comme Black Dog, Sirat, qui avait été un des films coup de poing de Cannes. Moi, ça me laisse encore des souvenirs très très impactants à l'esprit. La petite dernière d'Afia Erzi, qui avait remporté le prix d'interprétation féminine pour meilleure actrice, qui a toutes ses chances aussi pour les Césars à venir tout bientôt. L'un de mes films préférés l'année dernière, The Brutalist. Voilà, pareil, 3h34, mais il y a un entracte, promis.
C'est vrai, de 15 minutes.
Et c'est sublime. Moi, pour le coup, c'est à voir en salle, c'est une vraie expérience de cinéma, aussi bien formellement que dans le fond, c'est super. Il y a Adrien Brody, donc c'est une grande fresque, d'après-guerre, où en fait, on va suivre un architecte qui va fuir l'Europe de l'Est après justement 45. Et arriver en Amérique avec des rêves plein la tête, et qui va se retrouver heurté à tout plein de choses, et qui va vouloir construire son œuvre phare, quoi, son chef-d'œuvre. Et on suit ça comme ça pendant 3h35. C'est assez dingue. Et du coup, c'est Guy Pearce en face qui joue la personne qui lui commande justement cette œuvre architecturale monumentale. C'est complètement dingo à l'image de ce que le film raconte. Et puis, sûrement l'un de vos films préférés, parce qu'il revient dans beaucoup de tops, on le voit un peu sur les réseaux, Une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, qui là, pour le coup, n'a pas toutes ses chances au César, mais aux Oscars, bien entendu. Ça sent tout bon. Et bien sûr, La Palme d'Or, Un simple accident, que vous avez été aussi nombreux à publiciter l'année dernière.
Ça va, il n'y a pas que des films qui durent plus de 2h30.
Non, complètement. Sirat, c'est une petite heure 54. voilà, c'est... L'Inconnu de la Grande Arche aussi, que vous êtes beaucoup à nous avoir dit qu'on ne l'avait pas assez montré, 1h46. Qui revient justement sur la construction de la Grande Arche de la Défense. Film, voilà, pas historique parce que ça se passe finalement en 83, mais voilà, sur ce fait divers-là.
Et alors, on enchaîne avec la troisième semaine, la dernière semaine du programme, avec le Festival Télérama qui revient cette année,
c'est
du
ça.
21 au 27 janvier. Et alors là, il y a un peu de tout.
C'est ça. Alors du coup, ce que j'ai pas dit pour les Immanquables, c'est que comme Télérama, alors là pour le coup, il n'y a pas besoin d'un pass, mais sur les Immanquables, la place sera 4 euros pour toutes et tous, puisqu'avec Télérama, je le rappelle, le but est de revoir aussi des films à bas coût, puisqu'avec le pass Télérama, vous pouvez trouver soit dans le magazine Télérama de la semaine d'avant, soit sur internet, vos places sont à 4 euros pour deux personnes, sur toute l'intégrité de la semaine. Donc là, voilà, on a choisi parmi 10 films, parmi les 15 que Télérama proposait, 10 films qui ont marqué l'année... pour la rédaction de Télérama, donc il y aura des films comme Miroir numéro 3, Nino, qui étaient tous les deux présentés à Cannes, Nouvelle Vague, qui raconte l'histoire de ce tournage d'À bout de souffle en noir et blanc, un vrai joli film esthétique, et je pense que même pour les cinéphiles, qu'on aime ou pas À bout de souffle, il y a vraiment quelque chose de réjouissant à voir ça, à voir ce grand making-of très bien filmé, très bien interprété, qui frôle parfois le bébé de show dans les imitations, mais qui est toujours sur un fil où qui ne franchit pas pour le coup, et ça reste... Les acteurs en jouent sans en surjouer, c'est assez, assez chouette. Mémoire d'un escargot, qui est un film qui était sorti l'année dernière au mois de janvier, un film d'animation en stop motion par la même personne qui avait fait Marie et Max, qui a maintenant 15 ans, qui est super, qui est un vrai témoignage sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est assez beau. Des films comme Valeurs sentimentales également. L'Agence Secret, qui du coup sera là pour deux séances. Donc voilà, si jamais vous le ratez la semaine du 7, il y aura deux séances de reprise pendant Télérama. Ou encore l'un de nos films Doudou, vous avez été nombreuses et nombreux à chanter lors du karaoké qu'on a fait sur Partir un jour. On a donc un film d'ouverture à Cannes qui raconte donc Cécile, qui est jouée par Juliette Armanet, retourne dans le village de son enfance. C'est une grande chef qui est sortie de Top Chef, gagnante, enfin, voilà, chef de cuisine, et qui retrouve son crush d'adolescence, Bastien Bouillon. On croche tous pour Bastien Bouillon avec ce décoloré blond. Et qui, du coup, est une comédie romantique, mais avec des chansons comme Camaro, Family Like You, ou d'autres chansons. Enfin, voilà, c'est assez étonnant comme exercice, mais c'est très réussi. Donc voilà, ce sera aussi à revoir durant cette semaine de Télérama.
Et alors après, on enchaîne avec les avant-premières. Et là, on va retrouver aussi des films qui ont été diffusés lors du Festival international du film d'Amiens. Je pense à La vie après Siam.
C'est ça.
Ou Le gâteau du président.
Complètement. Ou même Baisenville, d'ailleurs.
Baisenville,
je crois qu'il y en a
3
sur
5.
Puisqu'en plus voilà, des meilleurs films de 2025, Télérama vous propose aussi le meilleur des films à venir pour 2026. Donc, comme tu le disais, La vie après Siam, Grand Prix au FIFAM dernier. Un documentaire assez touchant qui raconte justement le deuil. Donc, ce réalisateur Namir Abdelmessé qui va raconter comment ils vont faire le deuil de sa mère, lui et son père en fait. Donc il avait l'habitude en fait de beaucoup filmer sa mère, son précédent film parlait énormément de ça. Et donc là, sa mère malheureusement décède et il va se filmer lui et son père par rapport à cette disparition de Siam justement. Et finalement, très vite, ça va devenir un film sur le père. Et c'est là où c'est touchant. Il y a énormément de films d'archives aussi parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup filmer son quotidien, beaucoup filmer ses proches. Et il y a tout un jeu dans le film, parce que c'est un réalisateur égyptien, avec des films égyptiens. Il va faire des liens parfois entre ce qu'il vit lui et ce que des personnages vivent dans des films égyptiens. Pour les cinéphiles, c'est aussi assez chouette. Il y a une sorte de patchwork un peu comme ça. La vie ne vaut que si elle est « bigger than life », entre guillemets. Donc c'est assez touchant. Et alors, pour le coup, pareil, ça dure 1h16.
C'est court.
Donc voilà, ça vous laissera le temps d'en profiter et de vous libérer. Dans les autres avant-premières, on a également Baisenville, que moi, c'est un de mes films coup de cœur. J'avais déjà adoré Grand Paris, le précédent film de Martin Jova, qui là revient du coup avec Baisenville. Film complètement fou, film de banlieusard, mais de banlieusard vraiment... RER, quoi, et fin du RERB, où en fait il raconte sa vie assez dingue, où il a besoin de bosser, mais pour bosser, il lui faut le permis, sauf que pour payer son permis, bah, il faut qu'il bosse. Et cet adolescent-là, qui est ni un vrai adolescent, ni un vrai adulte, comment il va faire pour trouver un chemin, grandir, entre guillemets, dans sa vie. Et sa monitrice d'auto-école lui propose un Baisenville pour justement dormir sur Paris le temps, enfin, parce que c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans les transports en commun, et tout va tourner en fait autour de cette vie nocturne où il cherche à squatter en fait pour passer la nuit parce qu'il peut pas rentrer avec les RER et ainsi de suite. C'est une vraie comédie qui est assez, assez drôle, avec du coup lui-même, Martin Jova, Emmanuel Berco, William Legbill qu'on adore, Sébastien Chassagne ou encore Anaïde Rosam, que vous avez sûrement connu, révélation Anaïde Rosam dans la série culte sur les secrets du Love Story sur Amazon Prime, qui est une super actrice, voilà, qu'on est content de voir encore davantage au cinéma. On aura également The Mastermind de Kelly Richard, nouveau film après First Co, avec Josh O'Connor, qui est, si jamais vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez sûrement sa tête, vous l'avez vu partout en ce moment dans les films indés américains.
C'est vrai, ouais, ça
super. Révélation dans The Crown aussi, c'est un acteur de série sur Netflix qui jouait le prince Charles Jeune, enfin, c'est un super acteur, moi j'adore. Le film est super, en plus voilà, un père de famille qui va voler un tableau pour subvenir aux besoins de sa famille et qui se retrouve comme ça dans une sorte de cavale. C'est à la fois assez drôle et touchant, c'est vraiment très très bien. À pied d'œuvre, le nouveau film de Valérie Donzelli, avec là encore Bastien Bouillon, qu'on adore. Valérie Donzelli qui avait marqué les esprits il y a maintenant 10-15 ans avec La guerre est déclarée. Voilà, c'est un nouveau film adapté d'un roman. Et enfin, comme tu le disais, Le gâteau du président, film irakien, caméra d'or au dernier festival de Cannes, qui avait également été présenté en avant-première au FIFAM, et qui suit en fait donc dans l'Irak de Saddam Hussein, Lamia, qui se voit confier, donc 9 ans, qui se voit confier la tâche de confectionner un gâteau pour le président. Et donc voilà, on va suivre sa quête d'ingrédients, son quotidien, et comment elle va réussir à mener à bien cette mission-là. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais Boris et Angélique, qui ont découvert le film à Cannes, ne cessent d'en parler depuis mai dernier. Donc je crois que c'est un film qui marque, et on a très hâte de vous le proposer. Il sera d'ailleurs sûrement en sortie nationale chez nous, dans la foulée.
Et tu pourras le découvrir aussi à ce moment-là.
Complètement, je serai là le 27 janvier à 20h. En plus, voilà, c'est la séance qui clôt cette semaine de Télérama. Je ne vous ai pas donné les horaires, les infos, parce que ça fait beaucoup d'informations. Je vous laisse aller voir ça sur le site internet, l'application, ou sur notre programme papier qui est un peu partout dans le mien.
Oui, il y a toutes les informations disponibles, même pour tout ce qui est tarifs.
Complètement.
Voilà. Ouverture aussi du cinéma, pour aller chercher sa carte pour avoir plein de séances. Ça, donc, c'était pour le programme du 7 au 27 janvier. Si on va un petit peu plus loin, juste un petit peu, genre le 28 janvier, il y a une conférence, 130 ans de cinéma à Amiens. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors du coup, c'est Alain Trogneux, qui est un auteur et historien amiennois, qui a sorti il n'y a pas si longtemps que ça La Somme des cinémas, 130 ans d'histoire aux éditions Ancrage, qui est un ouvrage qui revient vraiment sur les salles de cinéma, du coup, dans le département de la Somme. Et en fait, il a voulu vraiment établir un état des lieux des salles de cinéma. Donc vraiment remonter à la naissance du cinéma, parce qu'on a fêté les 130 ans. La première projection publique du cinéma, c'était le 28 décembre 1895. On a fêté pile les 130 ans, là, il y a deux semaines. Et donc du coup notre métier est un peu né il y a 130 ans et donc il a fait un état des lieux, il s'est beaucoup documenté, il a été chercher des archives, il a aussi toute une partie du livre où il s'entretient avec des gens qui ont fait ou qui font les salles de cinéma aujourd'hui. C'est assez passionnant pour les curieux, les curieuses, les cinéphiles. C'est un objet que moi j'ai pu un peu feuilleter et qui donne envie entre guillemets de s'y plonger. En plus, il y a plein de photos, on voit des salles de cinéma que parfois on n'a jamais vues, mais dont on a entendu parler, parce qu'il faut savoir qu'à Amiens, à un moment donné, il y avait plus de 15 salles de cinéma. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et des fois, on oublie presque que devant ce garage ou à la place de ce magasin de vêtements, il y avait des cinémas à l'époque. Donc les photos permettent aussi de ramener une histoire et même des fois de rappeler des souvenirs, parce que ce n'est pas si vieux que ça, que ce soit vos parents, vos grands-parents, se sont peut-être rendus dans ces cinémas-là, donc ça peut aussi déclencher des témoignages. Et donc du coup il viendra le mardi 28 janvier à 18h30 pour une conférence d'environ 1h30 qui sera gratuite et ouverte à toutes et tous. Oui, là ce sera une conférence plus particulièrement sur les cinémas à Amiens, donc pareil illustré, il vient avec tout plein de documents à vous montrer sur grand écran et c'est quelqu'un de passionnant et de passionné, donc je suis sûr que ce sera super. Et ce sera bien sûr suivi d'une vente dédicace de son ouvrage pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin chez eux et se procurer cet ouvrage. Donc voilà, on a hâte et ça permet aussi de boucler un peu cet anniversaire des 130 ans de la naissance des salles de cinéma.
Oui, que l'on soit cinéphile ou pas, au moins on peut découvrir plein de choses aussi sur notre ville.
Complètement, même pour les amoureux d'histoire, de patrimoine, d'architecture. Pour le coup, sur le visuel qu'on a devant nous, et que si jamais vous allez voir l'affiche sur le site, vous le verrez, c'est, si je dis pas de bêtises, le Picardie à Amiens. Je confonds toujours le Paris et le Picardie, Boris de Montvouloir, si vous avez écouté ça. Je crois que c'est le Picardie. Et en fait, c'est des façades monumentales, et même l'affichage papier. Nous, on a encore ça au Ciné Saint-Leu, on affiche encore des affiches en papier, mais je sais qu'il y a beaucoup de multiplex au cinéma qui sont passés à l'écran digital. Là, en plus, on parle d'une façade qui est protégée, puisqu'en fait, tout le cinéma sur ce demi-cylindre-là est protégé maintenant. C'est un objet historique qui est protégé par la ville. Et c'est super de le voir en plus coloré comme ça à l'époque, avec ce beau bleu qui malheureusement n'est plus sur la façade. Donc il y aura aussi tout plein d'images d'architecture de la ville à revoir, et c'est aussi une histoire de la ville finalement qu'on va, j'imagine, un peu raconter via cette conférence.
En plus, c'est gratuit, donc franchement, n'hésitez pas à y aller. On termine avec le retour des Mycéliades. Alors là, on va encore un petit peu plus loin. 31 janvier au 15 février,
c'est ça
revient. Est-ce que tu peux déjà un petit peu nous...
Je peux vous balancer la prog.
Balancer deux, trois
non,
titres.
Enfin, donc c'est la troisième année, pour ceux qui ne le savent pas, les Mycéliades, c'est un festival de science-fiction qui lit cinéma et littérature. Donc on est très content de remettre le couvert avec la bibliothèque Louis Aragon, qui proposera également des choses et d'autres durant ce temps-là. Nous, il y aura 5 séances qui seront toutes accompagnées par des intervenantes, des journalistes. Il y aura même un ciné-quiz. Et au programme, il y aura des choses comme Arco, Dernier train pour Busan, Nausicaa de la vallée du vent, ou encore Soleil vert et Mad Max. Comme ça, vous avez tout. Vous n'avez pas encore les dates, mais vous savez qu'entre le 31 janvier et le 15 février, il se passera ça. Et c'est un moment très festif. Et on sait que vous êtes nombreux, nombreuses à plébisciter ce festival-là. Et c'est un vrai plaisir à chaque fois de recommencer avec eux. C'est un très beau festival et voilà, qui permet aussi parfois d'aller un peu plus loin que le cinéma. Et de se questionner aussi sur des choses parfois philosophiques, politiques, et aussi le lien entre littérature et cinéma. C'est chouette d'aller aussi un peu plus loin que juste l'objet cinématographique. Donc ce festival-là le permet, donc c'est super.
Donc il faudra rester bien connecté, j'ai envie de dire, pour avoir le programme, les heures, tout ça. Mais ça, ce sera après, donc le 31 janvier. Et merci William.
Merci à toi.
Et donc, pour retrouver toute la programmation du Ciné Saint-Leu, c'est sur le site internet ou sur les petits programmes papier.
C'est ça, même l'application qui est gratuite.
L'application, les réseaux sociaux, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Merci. Playing in your shadow while I wait. Bathing in
Some kind of shallow memory. Where you go, I'll follow till I find you. Violet haze taking shape right behind you, laying in your shadow while I.
Toujours sur Radio Campus Amiens, on vient d'écouter Shadow de Amy Blue. Et c'est l'heure de la chronique. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Vous savez, ces petites boules de poils trop mignonnes qui vous agressent quand elles ont faim, volent votre nourriture quand vous mangez, détruisent vos vêtements, vos chaussures, vos meubles, mais dès qu'ils vous font les yeux doux, vous oubliez tout. Je parle en connaissance de cause. Plus sérieusement, c'est prouvé scientifiquement que les animaux de compagnie ont un effet sur le système nerveux des humains. Par exemple, selon West France, une étude parue en mars 2025 dans la revue Social Indicators Research affirme que les animaux de compagnie participent à l'équilibre psychologique. Ils réduisent l'anxiété, la solitude et même parfois la dépression. Et ils rendraient aussi heureux que d'avoir un revenu annuel de 84 000 euros. Ils ont tellement de succès qu'ils sont même accueillis en dehors du domicile. De plus en plus d'employeurs acceptent les animaux de compagnie selon West France. Il y a même des lieux consacrés à ces petites créatures, des bars à chats, des bars à lapins, à lapin nain, des séances de yoga faites en compagnie de lapin nain aussi. Mais depuis quand on a des animaux de compagnie? Selon Jean-Denis Vigne, archéozoologue au Muséum National d'Histoire, sur France Inter, le chien est sans doute le premier animal domestiqué par les humains, et ça remonte à environ 15 000 ans. Pour expliquer, un archéozoologue, c'est un métier où on étudie les relations entre l'homme avec un grand H et les animaux à travers l'histoire avec un grand H. Le chien descend du loup, et en vivant aux côtés des humains, ils ont commencé à changer leur comportement. Par exemple, l'aboiement est propre au chien. Donc je cite l'archéozoologue, j'ouvre les guillemets, c'est un langage que le chien a développé dans sa vie en familiarité avec l'homme. Je ferme les guillemets. Un autre exemple, que l'aboiement, ils ont cessé d'attaquer les troupeaux et ils les gardent à la place. Donc ils avaient des fonctions précises, donc la chasse, garde de troupeaux. Je n'ai pas trouvé d'infos sur depuis quand exactement on a des animaux de compagnie qui sont là pour la compagnie et pas uniquement pour une fonction en particulier. Mais il n'y a pas que les chats et les chiens, il y en a plein d'autres, mais ils sont reconnus, entre guillemets, depuis 1984 sous l'acronyme NAC, N-A-C, Nouveaux Animaux de Compagnie, c'est le cas en tout cas en France. C'est une expression qui a été créée par le vétérinaire Michel Belangeon lors d'une conférence qui a eu lieu à l'École nationale vétérinaire de Lyon. En 1984, les NAC regroupent les animaux du type lapin, rongeur, Les lapins ne sont pas des rongeurs. Les poissons, les animaux exotiques, par exemple des reptiles, donc serpents, lézards, des oiseaux, des perroquets, des perruches. Il y en a pour tous les goûts. Même les insectes peuvent être des animaux de compagnie, mais ils ne font pas partie des nacs. Mais ils peuvent quand même être des animaux de compagnie. Et voilà, c'est déjà la fin de votre quotidienne préférée. On se quitte avec Nothing's Gonna Stop Us de Starship. Nothing's Gonna Stop Us Now de Starship. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens. Take it to the good times, see it through the bad.